pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Luc. Texte de la liturgie catholique pour la fête de l'Assomption. En ces jours-là, Marie se lève et se rend avec empressement vers le haut pays, dans une ville de Juda. Elle entre dans la maison de Zacharie et elle salue Élisabeth. Or, quand Élisabeth entend la salutation de Marie, l'enfant bondit en son sein. Élisabeth est remplie du souffle spirituel de sainteté. Elle s'écrie d'une voix forte.
« Tu es bénie parmi les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Comme la voix de ta salutation parvenait à mes oreilles, voici que l'enfant bondissait de joie dans mon ventre. Elle est sur la voie du bonheur, celle qui a cru que s'accomplirait ce qui lui fut dit de la part du Seigneur. »
Marie dit alors,
« Je chante à pleine voix la grandeur du Seigneur, et je crie d'allégresse pour le Dieu qui me sauve. Car il m'a considéré, moi son humble servante. Voici, désormais chaque génération me dira bienheureuse, car il a fait pour moi de grandes choses. Lui, le puissant, son nom est saint. Son cœur de tendresse accueille d'âge en âge ceux qui frémissent à son nom. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé les cœurs qui se croient forts. Il a détrôné les puissants et élevé les humbles. Il a comblé de biens les affamés, renvoyé vides les enrichis. Il est venu en aide à Israël, son fils et serviteur, se souvenant de sa miséricorde, comme il avait dit à nos ancêtres, en faveur d'Abraham et de sa descendance pour l'éternité. »
Marie reste environ 3 mois avec Élisabeth, puis elle revient dans sa maison.
Chers auditeurs et auditrices, bonjour, bonne fête de l'Assomption. Bonjour André.
Bonjour Georges.
Eh bien, cette montée de Marie n'est pas racontée dans l'Évangile. La liturgie nous propose un texte qui, à première vue, n'est pas en lien avec la montée au ciel de Marie, celui de la Visitation. Et d'autre part, on peut se poser la question, que peut signifier dans la vie quotidienne des chrétiens de l'an 2000 ce chant du Magnificat ? Alors voilà deux questions auxquelles nous tenterons de répondre.
Où se situe ce texte dans l'Évangile ?
Les deux premiers chapitres de Luc forme comme une sorte de préface à l'Évangile lui-même, l'Évangile qui commencera avec la prédication de Jean le Baptiste et le baptême de Jésus. Et ces chapitres sont d'un style un peu différent du reste de l'Évangile. Mais comme d'ailleurs tout le reste de l'Évangile, ils sont avant tout des catéchèses, mais ces catéchèses vont projeter dans la description de la naissance des deux personnages tout ce que l'on saura, tout ce que l'on croira d'eux après leur mort. Alors dans ce récit de Luc, notre texte se situe entre deux annonces de naissance, celle de Jean le Baptiste et celle de Jésus, et les naissances elles-mêmes. Et il vous faut donc avoir en mémoire le caractère divin de ces deux naissances pour comprendre la scène de la Visitation. En effet, le messager divin avait fait comprendre à Marie que l'enfant qui allait naître en elle serait fils du Très-Haut.
Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Son règne n'aura pas de fin.
Le message de l'ange évoquait des circonstances semblables qui étaient intervenues dans le passé d'Israël, et notamment la promesse faite à David que sa descendance conserverait la royauté.
Ta maison et ta royauté subsisteront à jamais devant moi. Ton trône sera affermi à jamais.
Marie peut aussi se souvenir de la naissance d'un autre roi messie, le roi Ézéchias, 700 ans auparavant, et qui va naître d'une jeune fille Une jeune fille qui sera d'ailleurs appelée dans la traduction grecque du livre d'Isaïe, la Vierge.
Voici, la jeune fille est enceinte. Elle va enfanter un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il a reçu le pouvoir et on lui a donné ce nom. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père éternel, Prince de paix, pour que, dans une paix sans fin, s'étendre le pouvoir sur le trône de David.
Alors que, à la naissance de Jésus, le peuple opprimé par la domination romaine attend un roi messie qui le délivrera, voici que Marie, la Vierge de Nazareth, se trouve choisie par Dieu pour être celle qui va engendrer le Messie.
Réjouis-toi, Mère de l'astre sans déclin. Réjouis-toi, reflet de la clarté de Dieu. Réjouis-toi en qui s'éteint la brûlure du mensonge. Réjouis-toi en qui s'illumine pour nous la Trinité d'amour. Réjouis-toi en qui illumine puissance et défaite. Réjouis-toi, tu nous montres le Christ Seigneur, ami des hommes. Réjouis-toi en qui les idoles païennes sont renversés. Réjouis-toi, tu nous donnes d'être libérés des œuvres mauvaises. Réjouis-toi en qui s'éteint l'idolâtrie du feu.
Eh bien, cette nouvelle incroyable qu'elle sera mère du Messie, Marie va s'empresser de venir la partager avec sa cousine Élisabeth. Cette-ci, malgré sa stérilité et son grand âge, est également comblée par Dieu. Elle aura un fils qui sera rempli de l'esprit de puissance d'Élie pour ramener vers Dieu de nombreux fils d'Israël. On se souviendra que certaines traditions juives du temps de Jésus attendaient le retour du prophète Élie pour qu'il soit le précurseur du roi Messie. Eh bien, ce sont ces deux attentes, celle du Messie et celle du précurseur, attentes marquées du doigt de Dieu, que vont célébrer les deux cousines.
Tu es bénie parmi les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur, le Messie, vienne à moi?
Dans la tradition biblique, le roi Messie est considéré en effet comme le Fils de Dieu. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a un lien entre le Père et Dieu. Le Père, dans la tradition juive, est celui qui va donner la Torah à son enfant, et le roi, dans la tradition juive, est le représentant du vrai roi d'Israël, qui est Dieu lui-même, et ce roi est le gardien de la Torah, de l'enseignement de Dieu. Les chants d'intronisation, d'ailleurs, du roi Messie exprimaient bien cette filiation.
Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré.
L'Esprit de Dieu, qui inspire les deux femmes, va les combler de joie, une joie communiquée aux enfants qu'elles portent en elles. Et le chant de Marie va expliciter la cause de cette joie, une joie qui concernera, au-delà des deux femmes, l'humanité tout entière.
Réjouis-toi, qui resplendit la joie du salut. Réjouis-toi, qui s'éteint la sombre malédiction. Réjouis-toi, qui attend.
Je chante à pleine voix la grandeur du Seigneur et je crie d'allégresse pour le Dieu qui me sauve.
Oui, la traduction liturgique dit « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit exulte de joie ». En théologie, les mots « âme » et « esprit » ont un sens bien particulier et qui cache l'image des mots hébreux que Marie a dû employer. En théologie, le mot « âme » désigne le principe premier immatériel de la vie. L'esprit, eh bien, c'est une substance qui peut subsister sans la matière. Dans le langage quotidien, quand nous parlons d'esprit, eh bien, cela se confond plus ou moins avec l'intelligence, la capacité de penser. Or, en hébreu, esprit et âme décrivent le souffle qui fait vivre. L'esprit, c'est le souffle de vie que Dieu a insufflé dans les narines de l'Adam, du terrien. Ce souffle n'est pas la propriété de l'être humain, mais le don de Dieu. Et il devra le rendre à Dieu au moment de la mort. « En tes mains, Père, je remets mon souffle », dira Jésus sur la croix. Ce souffle, il passe par les narines lorsque la bouche est fermée. Et en effet, traditionnellement, autrefois, quand quelqu'un mourait, on plaçait un miroir devant ses narines. Et si aucune buée ne venait troubler le miroir, eh bien c'est que le souffle était vraiment parti. Et lorsque Jésus ressuscite, eh bien, il va insuffler en ses disciples son souffle de sainteté pour qu'ils puissent pardonner, c'est-à-dire redonner souffle de vie aux pécheurs. L'âme, elle est ce souffle qui passe par la gorge et qui devient voix, parole, chant. Le chant, il passe par la gorge, une gorge qui va se déployer pour laisser éclater la joie. La langue française connaît aussi de telles images. On dit « on chante à gorge déployée » ou « on chante à pleine voix ». Et d'autre part, la joie vive que l'on éprouve donne un souffle plus rapide et le cœur bat donc plus vite, il exulte. Mot qui vient de saillir, sauter, bondir. Ces expressions, elles veulent signifier que c'est l'être tout entier qui vibre et qui exprime son bonheur. Et il l'exprime par la façon la plus expressive de dire sa joie, c'est-à-dire le chant, le rythme, la danse.
Réjouis-toi, jeune pousse au bourgeon immortel. Réjouis-toi, jardin aux fruits qui donne vie. Réjouis-toi, en qui a germé le Seigneur, notre ami. Réjouis-toi, tu as conçu le Seigneur de notre vie.
Il a considéré son humble servante.
Oui, ce bonheur de Marie vient du geste accompli par Dieu en sa faveur. Voilà la cause véritable de la joie de Marie. Dieu considère ceux qui s'humilient, à la différence des grands de ce monde qui considèrent ceux qui s'élèvent. Le choix de Dieu qui choisit Marie pour être la mère de son fils, la mère du roi Messie, signifie donc la valeur de l'humilité.
Pourquoi Dieu choisit-il l'humilité?
Une première explication serait que la grandeur de Dieu va être davantage reconnue par ceux qui sont des petits, des pauvres. La foule des petites gens adule les gens qui se présentent comme des gens forts. Zendel disait que l'humanité n'a jamais pu comprendre autrement la grandeur que sous la forme de la domination. Le plus grand est celui qui commande et exige d'être obéi. Celui devant lequel le peuple n'est que poussière. Eh bien, telle n'est pas l'expérience faite par Marie. Dieu ne s'est pas imposé à elle pour la naissance de son enfant. Il a au contraire voulu son acquiescement, son assentiment, son fiat. Thomas d'Aquin ira jusqu'à affirmer que le consentement de Marie, quoiqu'étant celui d'une seule personne, était attendu comme s'il était celui de l'humanité tout entière. On pourrait dire que si Dieu acquiesçait aux valeurs mondaines, il aurait alors choisi de faire naître son fils Messie dans une famille riche, connue. Non, s'il a choisi, au contraire, cette humble jeune fille qu'est Marie, d'un village ignoré qu'est Nazareth, c'est que, pour lui, ce qui est humble est porteur de valeurs plus grandes que la richesse et le renom. Cette valeur, d'ailleurs, qui ne fleurit que chez les humbles, c'est l'amour. Pascal distinguera plus tard trois ordres de grandeur. Celle de la chair, la richesse, le pouvoir. Celle de la pensée, la science, l'art. Et enfin, celle de l'amour.
Jésus, sans bien, sans aucune production au dehors de science, est dans son ordre de sainteté. Il n'a point donné d'invention, il n'a point régné, mais il a été humble, patient, saint. Tous les corps, le firmament, les étoiles, la terre et ses royaumes, ne valent pas le moindre des esprits. Tous les corps ensemble et tous les esprits ensemble et toutes leurs productions ne valent pas le moindre mouvement de charité. Cela est d'un ordre infiniment plus élevé.
Oui, l'amour est humilité. L'amour ne sera jamais le regard qui surplombe l'autre, qui descend de haut en bas. Un regard condescendant n'est pas un regard d'amour. Aimer quelqu'un, c'est au contraire l'élever à ses propres yeux. Aimer quelqu'un, c'est faire d'un fils un frère, d'une fille une sœur. L'amour crée l'égalité. Et Jésus fera de ses disciples des amis.
Réjouis-toi, tu nous ouvres au secret du dessein de Dieu. Réjouis-toi, tu nous mènes à la confiance dans le silence. Réjouis-toi, tu es la première des merveilles.
Son cœur de tendresse accueille d'âge en âge ceux qui frémissent à son nom.
Là encore, la traduction liturgique dit « Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent ». Eh bien, tout au long de l'histoire biblique, la crainte de Dieu s'est affinée. Au temps de Jésus, cette crainte n'est plus la terreur panique devant une puissance inconnue et redoutable. La crainte, c'est le respect infini qu'on éprouve devant la grandeur de celui qui est tout amour. C'est un sentiment d'immense vénération envers celui qui nous fait don de lui-même, don et pardon de son amour. Un amour qui est dit ici, dans le texte grec, « miséricorde ». Le mot grec, en effet, « éléos », traduit un mot hébreu qui parle des entrailles maternelles. Dieu, comme une mère, accueille en son sein ceux qu'il aime pour les réenfanter dans sa tendresse d'amour. Lorsqu'on fait cette expérience spirituelle de la tendresse de Dieu Père, alors on est saisi d'un frisson, d'un frémissement sacré, d'une immense vénération. On se trouve comme sans voix, le souffle coupé, devant la révélation de ce mystère insoupçonné, que ce n'est pas la force et la domination qui fait vivre, mais que c'est au contraire l'humble amour, le don de soi à l'autre, fait de respect et de gratitude. Choisir la voie du vrai bonheur, c'est imiter Dieu dans son amour. Et l'amour élève l'humble et comble le cœur en état d'accueil. L'amour ne peut que se donner à celui, à celle dont le cœur est en attente. Au contraire, ceux qui se croient forts, ceux qui sont riches de choses et repus d'eux-mêmes, cela passe à côté de l'amour. L'Apocalypse traduit ainsi cette expérience. Tu dis « Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien » et tu ne sais pas que tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu.
Mais le monde ne présente-t-il pas plutôt le triomphe des puissants ?
Oui, et il est vrai que les nouvelles télévisées de chaque soir décrivent bien plus souvent un monde qui est dominé par la violence. Je voudrais que nous reprenions ici l'interrogation du cardinal Martini, l'archevêque de Milan.
Essayons de nous demander si nous serions capables de reprendre à notre compte les affirmations de Marie. Ou bien si nous ne serions pas tentés, en regardant autour de nous, de faire des constatations contraires, sceptiques et pessimistes. De dire en effet que les orgueilleux triomphent, que les puissants dominent du haut de leur piédestal, que les humbles sont opprimés, que les affamés se multiplient et sont de plus en plus démunis, que les riches s'enrichissent toujours davantage.
Oui, c'est bien en effet comme cela qu'est le monde. Et Jésus dira qu'il en sera ainsi jusqu'à la fin des temps. À ceux qui espèrent l'avènement d'un monde où tous seraient humbles et pleins d'amour, Jésus répond que le blé et l'ivraie seront mêlés jusqu'au dernier jour, que le mal et le bien se côtoieront sans cesse. Mais il affirme aussi que celui qui accueille l'amour en sa vie, non seulement celui-là est sur la voie du bonheur, mais il insère dans le monde des semences de vrai bonheur. Toute âme qui s'élève élève le monde. Tout être qui aime fait venir le règne de Dieu sur cette terre. Toute semence d'amour, oh, est certes comme une graine de moutarde, la plus petite des semences, mais elle est capable de donner plus tard un moutardier où les oiseaux du ciel viendront s'abriter. Et ces oiseaux représentent tous les fils et les filles de Dieu venant de tous les peuples, comme le livre d'Daniel l'illustre au chapitre 4.
Réjouis-toi, mère de l'agneau et du pasteur. Réjouis-toi, maison des brebis rassemblées. Réjouis-toi, protection contre le loup. Réjouis-toi en ta chair, s'ouvre la porte qui conduit au Père.
Comment pouvons-nous aujourd'hui chanter le Magnificat ?
Eh bien, peut-être que cela nous implique d'une façon très concrète. Il nous faut faire nous-mêmes l'expérience de ce bonheur de l'humble fils de Dieu, de l'humble fille de Dieu. Nous ne pourrons dire avec Marie « Tu es mon sauveur » que dans la mesure où notre manière de vivre se coulera dans le modèle de celle de Jésus. Jésus saura nous apprendre à aimer comme Dieu aime, en considérant l'autre comme Dieu nous considère. Écoutons ce qu'il dit à ses disciples, peu avant le grand mime de l'amour qu'est le lavement des pieds.
Les rois des nations dominent sur elles, et ceux qui exercent le pouvoir se font appeler bienfaiteurs. Pour vous qu'il n'en soit pas ainsi. Au contraire, que le plus grand parmi vous se comporte comme le plus jeune, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert.
Oh, certes, nous pouvons penser que cette règle de l'amour n'est pas facile, qu'elle est presque impossible. Jésus le sait. Lui qui entend ses disciples à quelques heures de son agonie, après tant de mois passés à les instruire, qui les entend se disputer pour savoir qui aura la première place. Ils sont dominés encore par l'idée mondaine de la grandeur, comme nous le sommes et que nous le serons jusqu'à notre mort. Reprenons la belle description que Maurice Zendel fait du lavement des pieds.
Jésus va nous introduire maintenant dans la véritable grandeur. Il va leur laver les pieds, faisant le geste que les esclaves des Hébreux eux-mêmes auraient refusé à leur maître. Et Pierre, toujours dominé par son image de la fausse grandeur, se scandalise. Et maintenant, Jésus, à genoux, lave les pieds de Judas qui l'a vendu, de Pierre qui va le renier, de Jacques et de Jean qui vont s'endormir dans le jardin de l'agonie, et de tous les autres qui vont s'enfuir quand il aura été livré. C'est ici que commence la nouvelle alliance, que le visage de Dieu apparaît et que cette échelle de grandeur nouvelle, incomparable, nous est enfin révélée. Le plus grand, c'est celui qui donne le plus, celui qui donne infiniment, celui qui n'a rien, celui qui n'est qu'amour et qui ne peut qu'aimer.
Oui, voilà, je pense, comment il nous faut aujourd'hui vivre pour pouvoir, avec Marie, chanter le Magnificat.
Réjouis-toi, en qui les démons sont défaits. Réjouis-toi, tu foules aux pieds le maître du mensonge.
Pourquoi avoir choisi ce texte pour la fête de l'Assomption?
Eh bien, Luc semble avoir décrit la visitation de Marie et Élisabeth en évoquant l'Arche d'Alliance. On se souvient que l'arche était le symbole de la résidence de Dieu au milieu de son peuple, car cette arche contenait la charte de l'alliance entre Dieu et Israël, les 10 grandes paroles de la Torah. David avait voulu faire une maison pour que l'arche y réside, mais le prophète Nathan va lui dire, au nom de Dieu,
« Ce n'est pas toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite. Je maintiendrai après toi ton lignage. Ce sera l'un de tes fils dont j'affermirai le règne. » C'est lui qui me bâtira une maison, et j'affirmerai pour toujours son trône. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils.
Marie vient accomplir pleinement cette parole du prophète. En effet, n'est-elle pas cette maison où réside la présence de Dieu, elle qui abrite en son sein le Fils du Père divin? Celui qui va être la parole de Dieu traduite parfaitement dans une vie d'homme. Le chant d'André Gouze exalte Marie, demeure de Dieu parmi les hommes, terre de la promesse, mère de l'Emmanuel.
Réjouissez-vous avec moi, bien-aimé du Seigneur. Mon cœur est devenu le temple de Dieu. Il s'est penché sur son humble servante. Il a fait de mon sein la porte du ciel. En moi, il a pris chair le Fils unique du Père, Jésus, le plus beau des enfants des hommes.
Et comme le roi David avait fait transporter l'arche dans la cité de Dieu, Jérusalem, à l'Assomption, l'arche de la nouvelle alliance qu'est Marie est transportée dans la Jérusalem céleste.
Aujourd'hui s'est ouverte la porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire de Dieu. Exultez dans le ciel tous les messagers. Alléluia.
Mais ce texte de la Visitation ne concerne pas seulement Marie. Il est aussi l'archétype, le modèle idéal de la vie de chaque chrétien. Car chaque disciple de Jésus a vocation d'être arche d'alliance. Il doit être porteur de l'Évangile, porteur de Jésus, son maître, son frère, son ami. Dans son homélie sur l'Évangile de Luc, saint Ambroise décrit bien cela.
Si le Christ n'a qu'une mère selon la chair, le Christ est le fruit de tous selon la foi, car toute âme peut recevoir le Verbe de Dieu.
Oui, chacune de nos rencontres avec nos parents, nos amis, nos voisins, peut être visitation de Dieu. Visitation de Dieu pourvu que nous soyons vraiment conscients de l'esprit de sainteté qui nous habite. Pourvu que nous soyons vraiment branchés sur la longueur d'onde qui est celle de Dieu. Or, quelle est la fréquence de Dieu? L'adage nous répond.
Les oiseaux volent dans l'air, les poissons nagent dans l'eau. Dieu ne se meut, n'agit que dans l'amour.
Oui, quelle que soit notre richesse, quel que soit notre savoir, nous sommes appelés à être demeure de Dieu pour que le Christ visite encore les humains d'aujourd'hui. Pour terminer, citons Jacques Lœuve.
Un chrétien, quel qu'il soit, marié ou célibataire, religieux ou laïque, est chargé d'humaniser Dieu. Il est le Christ particulier, le visage du Christ pour ceux qui l'entourent, ou bien il tend à l'être. Ce n'est pas du sentimentalisme, c'est le réalisme de l'incarnation.
Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureux. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, ou vous abonner, téléphonez au numéro 514-254-87-50-254-87-50. Vous pouvez aussi nous trouver sur Internet. Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Choix musical et enregistrement Jean Béduchaud. Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine. Ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.